Aircal en redressement judiciaire. Le procureur de la République affirme que c'est la dernière chance pour sauver la compagnie domestique. L'actualité en métropole et le gouvernement qui veut contrer la hausse des prix des carburants. Matignon ne compte pas pour autant baisser les taxes, mais bien encadrer les marges. Le blocus du détroit d'Ormuz est étanche. Les États-Unis affirment qu'aucun navire en provenance ou à destination de l'Iran n'a pu passer ces dernières 24 heures. Le sport et le PSG qui doit résister à Anfield Road. Les Parisiens ont 2 buts d'avance sur Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des Champions. À la demi-heure de jeu, toujours 0-0. Et dans l'autre match de la matinée, l'Atlético de Madrid reçoit le FC Barcelone. La météo en Nouvelle-Calédonie, les nuages l'emportent cet après-midi et ce, sur l'ensemble du territoire. Les températures maximales sont stables, comprises entre 27 et 30 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'avenir institutionnel.
Oui, et sans surprise, le FLNKS refuse toute ouverture du corps électoral provincial. Dans une lettre au Premier ministre Sébastien Lecornu, Christian Théin réaffirme que les élections provinciales doivent se tenir avant le 28 juin 2026 avec le corps électoral actuel, Elisabeth Noir.
Une lettre datée du 12 avril mais rendue publique hier, alors que le FLNKS a participé aux 3 réunions organisées sous l'égide du Premier ministre, le mardi 7 avril, le vendredi 10, ainsi qu'à celle qui se tenait lundi soir. L'objet de ce courrier, selon Christian Théin, est d'exposer avec clarté et franchise la position du FLNKS. Pour lui, le rejet de la réforme constitutionnelle par l'Assemblée nationale traduit l'absence du consensus nécessaire à toute évolution institutionnelle durable. Et il écrit que sur la question du corps électoral, la position du FLNKS est ferme et ne souffre d'aucune ambiguïté. Les élections provinciales doivent se tenir avant le 28 juin 2026 avec le corps électoral actuel tel qu'il résulte de l'accord de Nouméa du 5 mai 1998 et tel qu'inscrit dans la Constitution française. On sait que Sébastien Lecornu attendait un geste du FLNKS sur le corps électoral, mais Christian Théin lui oppose une fin de non-recevoir. Il écrit que les équilibres qui ont rendu possible 30 ans de paix civile en Nouvelle-Calédonie n'ont jamais été le produit de gestes unilatéraux consentis sous pression et encore moins vis-à-vis d'élus illégitimes dont le mandat a été renouvelé artificiellement. Et le président du FLNKS propose son propre calendrier. Selon lui, la priorité doit être donnée à l'organisation d'élections provinciales juridiquement sécurisées et politiquement incontestables. Et il propose la reprise des discussions immédiatement après le scrutin pour parler des modalités d'accession à la pleine souveraineté et des nouvelles relations avec la France. Fin de citation. Une lettre qui traduit une nouvelle fois l'intransigeance du FLNKS et son refus de toute concession, alors que les partisans de la France affirment de leur côté que sans évolution du corps électoral, ils refuseront de reprendre les discussions avec le FLNKS après les élections provinciales qui auront lieu, c'est la seule certitude, le 28 juin prochain.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec tout d'abord la réponse à notre question d'hier. 86% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les partisans de la France doivent refuser de poursuivre les discussions avec le FLNKS s'ils refusent toute ouverture du corps électoral pour les provinciales. Ils sont 14% donc à être d'un avis contraire. Voici maintenant notre question du jour. Selon vous, Manuel Valls devrait-il arrêter de s'exprimer publiquement sur le dossier calédonien? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Je le disais en titre, comme Aircal l'avait annoncé, selon la décision de son conseil d'administration, la compagnie aérienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce Lionel Sabot.
Ah oui, une procédure collective qui fait suite à la situation de cession de paiement de la compagnie avec un passif estimé à 256 millions de francs. Cela fait 45 jours maintenant que les aérodromes des loyautés sont bloqués par des collectifs opposés au déménagement des activités d'Aircal de Magenta vers Tontouta. Les avions d'Aircal ont seulement repris leur liaison vers l'île des Pins depuis la semaine dernière. Des bouclages qui interviennent après la période Covid, puis les émeutes de 2024 qui avaient déjà mis à mal l'activité de la compagnie. Et les blocages dans les aérodromes depuis le 2 mars dernier ont été le coup de grâce. Ils coûtent chaque jour 10 millions de francs à Aircal. Depuis plusieurs années, Aircal a fait des efforts en menant un vaste plan social qui a permis de réduire la masse salariale de 44%. Les salariés ont d'autre part baissé leur volume volume de travail et ont donc réduit leur salaire. Dans un communiqué, le procureur de la République précise que la procédure judiciaire introduite par Ercal devant le tribunal de commerce doit lui permettre de mettre en place un plan d'apurement de son passif tout en sauvegardant son activité et les 220 emplois actuels de la compagnie. Elle va ainsi poursuivre son activité pendant 6 mois au moins. Le procureur de la République souligne que cette procédure judiciaire est la dernière chance de sauver Ercal.
Et c'est d'ailleurs l'un des sujets sur lesquels nous interrogeons le procureur de la République, Yves Dupas. Il sera en effet notre invité du matin tout à l'heure à 7h30 et avec lui nous reviendrons aussi sur l'affaire criminelle de Wano. Ce week-end, un homme a succombé à ses blessures après avoir reçu un coup de couteau lors d'une rixe sur fond d'alcool. L'auteur présumé des faits a été mis en examen pour homicide volontaire et violence volontaire aggravée avec usage d'une arme. Il a été placé en détention provisoire.
Radio Rythme Bleu, 6h36.
L'actualité institutionnelle à présent avec les élus du Congrès qui étaient réunis en séance publique hier, boulevard Vauban, avec à l'ordre du jour 2 textes. Et d'abord, Lionel Sabot, un projet de loi du pays portant diverses dispositions en matière sanitaire et sociale.
Une loi de pays qui aurait dû être examinée il y a quelques mois déjà, mais qui était retournée en commission suite à l'adoption d'une motion préjudicielle. Le texte qui a été adopté finalement hier matin à l'unanimité par les élus du Congrès comporte 70 articles. Un texte pour débuter la refonte du système de santé afin d'améliorer l'accès aux soins. Claude Gambet, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en charge notamment de la santé.
La grande satisfaction, c'est que l'on puisse avancer et qu'on puisse répondre à certaines urgences, notamment la question de la soutenabilité de notre protection sociale, mais aussi la question de la pénurie du personnel et enfin l'anticipation des crises à venir par la constitution de stocks stratégiques et pour finir l'encadrement de la circulation des données, puisque dans les prochaines semaines, va arriver sur le bureau du Congrès le fameux numéro calédonien unique de santé qui a été demandé à maintes reprises aujourd'hui par les personnels. Mais il convenait, de prime abord, de sécuriser la circulation des données. Et le numéro unique calédonien de santé va nous permettre, ce sera un outil fabuleux de pilotage, de gouvernance de notre système de santé.
Et ce projet de loi du pays a donc été adopté à l'unanimité. Hier après-midi, les élus du Congrès ont poursuivi leurs travaux avec cette fois-ci l'examen d'un projet de délibération modifiant certaines mesures relatives au corps des enseignants du premier et du second degré de la Nouvelle-Calédonie. Les explications d'Isabelle Chamb-Moreau, membre du gouvernement en charge de l'enseignement.
Le premier degré, ça concerne particulièrement la formation des enseignants de Nouvelle-Calédonie pour devenir instituteur ou professeur des écoles. Depuis le transfert, on avait des diplômes qui étaient signés par le vice-recteur. Et puisque c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, en fait, on a régularisé les choses de façon réglementaire. Je voulais quand même rassurer, parce que c'est plus important, les étudiants et leurs familles sur ce sujet, ça ne change rien à la qualité de la formation et ça ne change rien au fait qu'on puisse pratiquer, être enseignant en Nouvelle-Calédonie. La vraie question qui se posera quand même, c'est que ce sont des diplômes qui ne sont pas, quand on est Bac plus 3, reconnus en métropole, à la différence de ceux qui ont un master. Donc j'ai demandé une commission supplémentaire quand même pour qu'on retravaille sur ces sujets à terme. Et sur le second degré, c'est pour maintenir l'attractivité aussi de notre fonction publique territoriale. Il n'y a pas d'impact budgétaire pour la Nouvelle-Calédonie puisque c'est toujours pris dans la grosse enveloppe qui est pour l'instant financée par l'État et on espère que ça perdurera dans ce domaine de l'enseignement.
Et le texte a été adopté finalement à l'unanimité des élus présents dans l'hémicycle du boulevard Vauban. J'ajoute que les conseillers du Congrès se retrouveront demain matin pour une nouvelle séance publique lors de laquelle ils examineront 2 projets de délibération liés au secteur de la santé, dont un relatif au taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières pour l'exercice 2026.
Dans l'actualité économique, le nouveau directeur général de l'IOM s'exprime sur la situation calédonienne. Depuis le 9 mars, l'Institut d'émission d'Outre-mer, l'organisme qui exerce les fonctions de banque centrale dans les 3 collectivités françaises du Pacifique, est dirigé par Alexandre Gauthier, qui nous vient de la Banque de France. Et il a présenté à la presse cette nuit la situation économique des Outre-mer en 2025 et les perspectives pour 2026. Et concernant le climat des affaires, Alexandre Gauthier estime qu'il existe depuis plusieurs mois maintenant, en Nouvelle-Calédonie, des signaux très positifs, mais que l'incertitude institutionnelle bloque toujours l'économie calédonienne.
Sur la Nouvelle-Calédonie, je dirais qu'en synthèse, on sent des projets. On sent une volonté d'entreprendre, indéniablement. Et quand on interroge également les banques, on sent qu'il y a des demandes de financement qui sont prêtes, mais il y a ce flou institutionnel qui est bloquant. Et de façon unanime, quels que soient les acteurs, ils indiquent tous que l'incertitude institutionnelle est un blocage extrêmement fort à redémarrer, mais la volonté de redémarrage est là.
Et sans grande surprise pour Alexandre Gauthier, cette incertitude institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie ralentit le développement économique du territoire, freine la consommation des Calédoniens, mais elle risque aussi de décourager les entrepreneurs qui ont besoin de visibilité à long terme.
Je crois que l'un des ennemis du développement économique, c'est l'incertitude. Et on le voit avec, par exemple, ce qui se passe avec la guerre en Iran. Donc, les travaux qu'on peut conduire pour diminuer l'incertitude, c'est nécessairement un facteur qui favorise, ne serait-ce que la consommation. Donc, dans l'immédiat, de se dire que l'horizon est dégagé et qu'il n'y a pas de risque d'instabilité, c'est clairement quelque chose qui favorise la consommation. Maintenant, si on se place dans une perspective d'un peu plus long terme, pour un entrepreneur qui va investir peut-être à 3, 5, 10, 15 ans, c'est difficilement envisageable de le faire avec une trop grande incertitude institutionnelle. Donc c'est ne serait-ce que d'avoir une visibilité sur une politique institutionnelle, sur un développement, un régime économique, un régime fiscal, etc., etc. La levée de cette incertitude, c'est vraiment lever un blocage, un investissement. Mais encore une fois, on sent une volonté d'un redémarrage économique.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Il est 6h42, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Et il sera là aussi question d'économie et notamment du prix des carburants.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
C'est la fête du jardin chez Cheval Distribution. C'est la saison, on s'y met tous au jardin. Profitez de super promotions sur les plantes, jardinières, terreaux, engrais, semences et barbecue. Vous savez, toujours au meilleur prix, c'est chez Cheval Distribution. Jusqu'au 26 avril, à Bellevue et à Pogoti.
Samedi 18 avril, c'est l'Electro Race, l'événement sportif le plus festif de Nouméa. 5 km Night Run et 7 en live avec DJ Vision et DJ Lolo autour du Centre Culturel Jibaou. Préparez vos baskets et vos tenues les plus folles. Ouverture des portes 18h, départ 19h. Inscription en ligne jusqu'au jeudi 16 sur le site inlife.nc avec l'opticien Dombea Moll. Pour tout savoir, inlife.nc. L'Electro Race, ça n'est pas qu'une course, ce sera l'explosion nocturne de l'année. Un événement en fit énergie.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec l'actualité en métropole et le gouvernement à la manœuvre sur les prix de l'essence. Il tente de rassurer les automobilistes, mais aussi toutes les professions directement dépendantes du prix du baril de pétrole, avec une nouvelle mesure. Le gouvernement propose en effet non pas de baisser les taxes, mais bien d'encadrer les marges, Maïlène Trémollet.
Oui, il s'agit d'un projet de décret qui pourrait durer 6 mois pour que les marges des distributeurs n'augmentent pas drastiquement, qu'elles restent dans leur moyenne d'avant la crise, en janvier et en février dernier. Une mesure prévue pour éviter les surprofits, donc au-delà du seuil de 1,71 euros pour le gazole et l'essence. Signe que le gouvernement, même s'il n'a pas encore tranché, prend les choses en main. Comme l'expliquait Maud Bréjon depuis l'Assemblée nationale cet après-midi, la porte-parole est revenue sur les aides d'urgence déjà existantes.
On est dans une situation extrêmement volatile, avec des prix qui fluctuent en fonction des prises de parole des grandes puissances. Nous adapterons ces dispositifs autant que nécessaire dans les jours et dans les semaines à venir, fonction d'une situation qui nous dépasse.
Toujours est-il que ce geste du gouvernement, qui s'ajoute à une possible évolution des aides d'urgence, risque de ne pas suffire à contenir la colère des consommateurs, puisque cet encadrement ne viserait pas les prix mais seulement les marges, donc que le coût du carburant, lui, pourrait continuer à s'envoler. Reste que c'est une manière pour Matignon de se poser en acteur de la crise et surtout de renvoyer la responsabilité de la hausse des prix aux distributeurs, souligne un fin connaisseur du dossier.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, le blocus américain continue dans le détroit d'Ormuz. La flotte américaine est en place à la sortie du chenal en mer d'Arabie, prête à intervenir. La question étant maintenant de savoir si ce blocage est parfaitement étanche, Wilfried de Villers.
Pour l'instant, cette question elle reste en suspens parce que d'un côté, on sait qu'au moins 6 navires qui se dirigeaient aujourd'hui vers le détroit ont finalement fait demi-tour. Le blocus américain a donc bien un effet dissuasif. On le rappelle, son objectif principal est d'empêcher les navires de quitter les ports iraniens. Mais 3 d'entre eux semblent bien avoir bravé le blocus. Un vraquier battant pavillon du Liberia et un tanker sous les couleurs comoriennes ont passé le détroit hier. Cette nuit, c'est un navire chinois qui s'est engagé dans la voie maritime, un bâtiment sous sanctions américaines en raison de ses liens avec l'Iran, précisément ce que tentent d'arrêter les États-Unis. Mais attention, passer le détroit d'Ormuz est une chose, franchir le blocus américain en est une autre. Visiblement, les 3 navires n'ont pas encore atteint la zone de blocus située plus au sud dans le golfe d'Oman et l'US Navy a les moyens d'arrêter ces bateaux, comme l'explique Per de Jong, ancien colonel des forces marines.
Un pétrolier, c'est un équipage de 20 personnes. Militairement parlant, c'est pas compliqué pour une opération avec des commandos, avec un hélicoptère, de prendre le contrôle du bâtiment, d'arrêter le bâtiment et de faire jeter l'ancre.
Pour l'instant, aucune opération d'arraisonnage n'a eu lieu. Washington affirme qu'aucun navire n'est passé entre les mailles du filet, mais de telles opérations présentent un grand risque géopolitique.
C'est l'impact politique qu'on mesure pas très bien. Si les Américains commencent à arrêter des bateaux chinois, ça va poser un problème. Donc là, il y aurait une espèce de confrontation entre la Chine et les États-Unis qui n'est pas ce que veut Trump à l'heure où on parle.
Pas de confrontation directe donc avec la Chine, mais avec ce blocus, Donald Trump espère tout de même que Pékin fasse pression sur l'Iran pour que le pays accepte de négocier, notamment sur la question du nucléaire.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Et l'autre volet de ce conflit, c'est le Hezbollah libanais. Sur ce sujet, une négociation est en cours à Washington avec Marco Rubio entre les deux ambassadeurs libanais et israéliens aux États-Unis. C'est une première depuis 1983 et malgré tout, eh bien, le Hezbollah revendique toujours des frappes dans le nord d'Israël. À ce sujet, toujours, Emmanuel Macron co-présidera vendredi avec le Premier ministre britannique Keir Starmer une conférence avec les pays non belligérants volontaires pour restaurer la liberté de naviguer dans le détroit d'Ormuz.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h46.
À l'actualité en métropole, toujours les députés Renaissance mécontents après le recul du gouvernement sur l'élargissement du travail le 1er mai à certaines professions pour les salariés volontaires. Le groupe de Gabriel Attal s'en est vivement pris à Jean-Pierre Farandou en réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'élus ont fait part de leur colère au ministre du Travail et à travers lui au Premier ministre Alexandre Chauveau.
Oui, réunion houleuse avec en toile de fond un sentiment de trahison de la part des députés Renaissance. Je me demande pourquoi je soutiens le gouvernement, lance ainsi le député des Deux-Sèvres Jean-Marc Fiévet. Le gouvernement recule encore face aux injonctions de la gauche, regrette de son côté Prisca Thévenot. Une colère froide provoquée par la décision de Sébastien Lecornu de ne pas convoquer de commission mixte paritaire sous pression des syndicats, laquelle aurait été conclusive. La droite et le centre y étant majoritaires. Le sentiment est partagé chez Horizon ainsi que chez les Républicains qui reprochent au Premier ministre son manque de courage. Matignon évoque en retour le risque d'une motion de censure de la gauche qui aurait placé l'exécutif à la merci du Rassemblement national. Alors Renaissance ne se décourage pas pour autant. Plusieurs députés ont proposé que Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet contournent le gouvernement et convoquent de leur propre chef une commission mixte paritaire. Initiative poussée par Bruno Retailleau, pour qui le Parlement prendrait ainsi ses responsabilités face, je cite, à un gouvernement tétanisé par la peur de la gauche et des syndicats.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 au sujet des députés Ensemble pour la République. Et puis les députés ont approuvé tout à l'heure le projet de loi de simplification de la vie économique. La mesure dont on parle le plus, c'était la suppression des ZFE, les zones à faible émission contre les voitures polluantes dans les villes. L'Assemblée nationale adopte donc ce texte et la suppression des ZFE est confirmée. Actualité judiciaire et des enquêteurs financiers se sont rendus à l'Élysée hier soir, mais ils n'ont pas été autorisés à perquisitionner le palais présidentiel. Au cœur de leurs investigations, des contrats passés avec une seule et même société pour les cérémonies d'entrée au Panthéon organisées entre 2002 et 2024. Justice toujours, un peu plus de 24 heures après la mort d'un adolescent de 13 ans tué par balle à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, deux personnes sont toujours en garde à vue. Il s'agit d'un mineur de 15 ans et d'un homme âgé de 44 ans. C'est dans l'épicerie de cet homme qu'a eu lieu le drame. Les trois autres mineurs âgés de 12, 15 et 16 ans ont vu leur garde à vue être levée. Les circonstances ne sont pas encore connues avec précision, mais il semble maintenant que la piste d'un accident ait pris de l'épaisseur. Un hommage est rendu à la jeune victime près du lieu du drame. Jean-Luc Boujon pour Europe 1.
Oui, dans la maison de quartier à deux pas du centre commercial où le jeune Wissam, 13 ans, a perdu la vie hier, de nombreux habitants sont venus au soutien de la famille, notamment du papa qui est présent ici ce soir, à l'image de Céline, professeure du jeune garçon qui était scolarisé en quatrième dans le collège voisin.
Je garderai un très bon souvenir de son fils. J'étais bouleversée d'apprendre cette nouvelle. C'est dramatique, horrible. On ne peut pas imaginer ça. C'était un super élève, un super gamin, hyper gentil, hyper sympa, toujours fier de réussir. Donc, c'est une grosse, grosse perte pour nous. Vraiment très serviable, très sympa, très bon copain. C'est terrible.
Une enseignante horrifiée par les circonstances du drame, qui est probablement un accident. Les choses semblent se préciser ce soir. Le groupe d'adolescents dont la jeune victime aurait trouvé l'arme chargée dans l'épicerie du centre commercial. Il l'aurait manipulée et un coup serait parti, touchant mortellement l'adolescent à la tête. Cette thèse de l'accident, c'est aussi celle qui est avancée par le papa de la victime, qui affirme qu'il n'y avait pas d'animosité entre les adolescents, qu'au contraire, ils étaient amis, qu'ils s'invitaient souvent à dormir les uns chez les autres. Un père qui hors micros et caméras précise qu'il n'y a pas non plus de point de deal dans ce secteur et qui pose la question: que faisait une arme chargée dans cette boutique? Question que les enquêteurs continuent de poser également aux deux personnes qui restent en garde à vue ce soir, l'épicier de 44 ans et le mineur de 15 ans, sachant que cette arme justement n'a toujours pas été retrouvée.
Jean-Luc Bougeon, le correspondant d'Europe 1 à Lyon. Il est 6h passées de 51 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Vous voulez découvrir le golf gratuitement? C'est possible, grâce aux journées portes ouvertes proposées par les golfs de Dimbéa et d'Eva du 25 avril au 10 mai. Venez passer une journée en famille ou entre amis dans un cadre verdoyant et paisible pour une initiation gratuite riche en émotions. Alors n'hésitez plus, inscrivez-vous et découvrez l'univers du golf. Réservez votre créneau de 1h dès maintenant à Dimbéa au 41 8000 ou à d'Eva au 20 70 16. A bientôt sur les greens.
Chez Sima Quincaillerie, c'est le mois des bons plans. La perceuse à percussion Makita 110 watts avec son coffret est vendue 12 900 francs. Offre valable du 1er au 30 avril, dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, carrefour du 4e et à Koné, lotissement Cataviti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire. On retrouve Nicolas Legrand.
Et les vacances scolaires qui sont synonymes de partage et d'activité pour les enfants inscrits dans les centres de loisirs. Des centres organisés à Dimbéa par la CAF et les villages de Magenta. Hier, la nouvelle maire de la commune, Cynthia Jean, et son équipe sont allés à la rencontre des enfants et des animateurs. Ils étaient à l'école René Fong où la CAF s'installe pour les vacances.
C'est une façon, avec mon équipe, de venir au plus près des agents, des animateurs, et comprendre avec eux quels sont leurs besoins. On sait que l'occupation de nos jeunes est un instrument extrêmement important pour limiter la délinquance, etc. On sait que c'est important que les enfants soient accompagnés, suivis pendant les vacances. Et on essaye de comprendre pourquoi il y a finalement trop peu d'enfants qui viennent dans les centres.
Et pour Caloué Alessier, directrice du centre de loisirs de la CAF, cette rencontre avec la nouvelle équipe municipale est l'occasion d'avoir une continuité des projets.
On est content d'avoir une nouvelle maire femme qui peut-être elle va nous donner une touche féminine de notre commune. Et on vit en ce moment une crise. J'espère qu'avec elle, son cœur de maman, cœur de femme, pourront nous aider à accueillir tous les enfants qui ont besoin d'être occupés.
Et après la CAF hier, Cynthia Jean rencontrera les enfants et les animateurs des villages de Magenta. Ce sera demain à l'école Victorien Bardou d'Auteuil. Et puis attention, en cette période de vacances, les plages de Nouméa sont fermées à la baignade en cause la présence d'un important banc de physali, un organisme marin venimeux qui ressemble à une méduse. Ne les touchez surtout pas, même si elle est chouée sur le sable. Leurs filaments sont urticants et peuvent provoquer des brûlures ou des réactions allergiques très graves. Les plages du Château Royal, de Lanzarote, de la baie des Citrons et de l'île aux Canards sont donc fermées aujourd'hui, mercredi. Toutes les activités nautiques sont également interdites. Il est 6h54, merci d'être avec nous. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité sportive en compagnie de Lionel Sabot. Et on verra évidemment les performances du Paris Saint-Germain qui est sur la pelouse de Liverpool ce matin en quart de finale, retour de la Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Entrepreneur, dirigeant d'entreprise, vous souhaitez développer votre activité à l'international et faire de l'export votre prochain levier de croissance? Rendez-vous à la CCI mardi 21 avril de 8h à midi pour la matinée de l'export. Les experts et partenaires de l'export seront réunis pour vous informer sur les parcours et les démarches à l'international, étape par étape, les financements, les stratégies ou encore les marchés porteurs. Venez échanger avec des spécialistes, assister à des mini-conférences, vous inspirer de témoignages et repartez avec des conseils concrets. La matinée de l'export, le rendez-vous incontournable pour initier ou développer vos démarches à l'international. Programme complet et inscription sur www.cci.nc.
Ta-ta-ta ! La chasse aux gloutons d'énergie est ouverte. Les gloutons d'énergie, c'est tous ces objets qui gloutonnent notre électricité et font exploser nos factures. La télé, par exemple, même quand elle est en veille, elle continue à consommer. Heureusement, il y a l'arme fatale, la multiprise à interrupteur. Un petit clic et clac, jusqu'à 10% en moins sur la facture. Plus d'infos sur ecogest.nc, eec.nc ou enercal.nc. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Et du football ce matin avec le coup d'envoi des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Lionel Sabot et le Paris Saint-Germain qui est en déplacement sur la pelouse de Liverpool.
Effectivement, Paris bousculé, Paris malmené, Paris dominé, mais Paris toujours qualifié. C'est la bonne nouvelle de ce matin pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens qui sont en déplacement en effet sur la pelouse d'Anfield Road où on ne marche jamais seul comme le disent si bien les supporters anglais. C'est la pause, les deux équipes sont à égalité 0-0. On se souvient qu'au match aller, les Parisiens l'avaient emporté 2-0 au Parc des Princes. Une première mi-temps lors de laquelle les Anglais ont dominé, ont joué beaucoup plus haut que lors du premier match et forcément ils ont eu le ballon et quelques occasions. Première mi-temps qui a été marquée également par la sortie d'Hugo Ekitike, le Français de Liverpool, qui semble être sévèrement blessé, peut-être au talon d'Achille, ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout pour Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du Monde. Et puis sortie également à côté du Paris Saint-Germain de Nuno Mendes qui a été remplacé par Lucas Hernandez. Donc il s'est plus passé de choses à l'infirmerie d'Anfield Road que sur la pelouse. 0-0 à la mi-temps entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Dans l'autre match de la matinée, duel 100% espagnol entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Au match aller, les Madrilènes s'étaient imposés 2-0. Là encore, c'est la mi-temps à Madrid et ce sont les Barcelonais qui mènent 2-1. Donc pour le moment, l'Atlético Madrid reste qualifié pour les demi-finales de la compétition. Demi-finales qui arriveront très vite, ce sera dans 15 jours.
Alors je ne sais pas si ma demande rime à quelque chose, Lionel Sabot, mais on va parler de sport sur le territoire pour terminer avec la saison des sports automobiles qui démarre ce week-end. Et vous allez là aussi nous le faire en poésie.
Exactement. Thomas Vallée qui accueillera samedi le premier round du Monster Energy Drift Championship. 20 pilotes sont attendus, 14 dans la catégorie pro, 6 dans la catégorie loisirs. Du chaud, de la vitesse, des sensations garanties. Écoutez Alexis Barbeau.
Vendredi, il y a le contrôle des voitures et les essais l'après-midi et le samedi, toute la journée, la compétition. Le niveau progresse tous les ans, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment visible. Sur les 20 participants, il y a 14 catégories pro, donc c'est là où il y a le plus de spectacles et les loisirs. On va essayer de redynamiser un peu cette catégorie qui amène les gens à la compétition. C'est bien pour une première parce que malgré tout, il ne faut pas oublier la situation économique du territoire en ce moment, donc on est content. On a remarqué que commencer tôt, ça attire pas trop le public, faut laisser le temps de venir. Donc 9h, milieu de matinée, on commence les phases de qualification. Et pour finir en nocturne, à 21h, où il y a le spectacle, les flammes à l'échappement, tout ce qui va pour faire un beau spectacle.
Et le premier round du Monster Energy Drift Championship, c'est donc samedi sur le circuit de Thomo Vallée de 9h à 21h. Et l'entrée sera gratuite.
Merci beaucoup Lionel Sabot. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le mini-journal pour faire un point sur Paris. Et je ne sais pas si ça vient du fait que je disais que les Parisiens devaient résister. Il est 6h59.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et le temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, le ciel serait encore souvent nuageux. Ça sera pour ce matin, excepté sur le nord-ouest, où le temps sera un peu plus lumineux. Quelques averses intéresseront les loyautés. Des ondées remonteront sur le sud-ouest également. L'alizé orienté sud-est pour ce matin, entre 15 et 20 nœuds en général. Plutôt 20 nœuds sur le nord-ouest et localement 10 nœuds sur l'est. Cet après-midi, les nuages l'emporteront sur la majeure partie du territoire. Des averses se maintiendront en loyauté. D'autres se formeront sur la chaîne. L'alizé toujours au sud-est, 15 à 20 nœuds, voire plus de 20 nœuds sur le nord-ouest et aux loyautés. On parle des températures, elles sont comprises en général entre 27 et 30 degrés, Nicolas.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Elisabeth Noir. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.